rap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu de ce mercredi. 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter, @culturemedia, culture au singulier, média au pluriel. Notre info média du jour, on va parler des ravages que cause l'accès libre du porno chez les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est parfois moins de 15 ans. Et ça conduit, ça peut conduire jusqu'au harcèlement scolaire et aux violences sexuelles. France 2 consacre sa soirée entière à ce problème avec une fiction, un documentaire puis un débat. La productrice sera avec nous. Dans un tout autre genre, je recevrai l'idole des mamies, comme il le dit lui-même, Cyril Ferraud, qui a pas moins de 4 émissions sur France 3 et qui relance la carte au trésor et ses hélicos bleus et rouges. Et puis, enfin, le cinéaste Christophe Honoré sera avec nous pour son film Chambre 212, complètement barré, que j'ai vu, qui sort aujourd'hui le film avec Camille Cotin, qui sera également avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, je m'en réjouis. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereau de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Les audiences télé, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir ?
Roulement de tambour, c'est France 3 qui s'est classé en tête.
Il n'y a pas le bruitage.
Hier soir. Merci.
Ça, c'est Linda Costa.
C'est France 3 qui s'est donc.
Qui justifie son salaire.
Ils font bien quand même.
Quel bruitage, quel talent.
Je Nicolas, tous les jingles.
Nicolas Cantu n'a qu'à bien se tenir. Pierre, c'est à vous. Vous ne laissez pas distraire.
Et donc, c'est France 3 qui s'est classé en tête des audiences hier soir avec le grand retour de la série française Alexandra L avec Julie Depardieu dans le rôle titre. 4 millions de Français, 18,2% du public ont passé la soirée avec celle qui incarne un médecin légiste de Bordeaux. Un très bon score donc pour France 3 qui récupère le leadership du mardi soir.
Et Julie Depardieu qui sera bientôt dans cette émission et on s'en réjouit.
TF1 est deuxième avec de nouveaux épisodes de SWAT, sa série d'action américaine du mardi soir. Comme chaque semaine, 2 épisodes inédits étaient au programme de la soirée. Et en moyenne, la série d'action portée par chez Marmour a fédéré 3 600 000 téléspectateurs, 16,9% du public. Et malgré la concurrence de France 3, c'est un score plutôt stable sur une semaine pour TF1.
Et je vous ai entendu l'autre jour faire un magnifique trait d'esprit, donc je dis soit c'est la 6, soit c'est la 3, qui est troisième.
Et bien la troisième place, c'est pour France 2. France 2 qui proposait un nouveau numéro de Tout le monde joue, le jeu interactif animé par Nagui. Hier, le thème c'était l'histoire, et Nagui était épaulé pour l'occasion par Stéphane Bern. Tout le monde joue avec l'histoire a diverti 2 700 000 personnes, 13,3% du public, c'est un très bon score pour la 2. La quatrième place revient donc à M6 qui proposait Objectif 10 ans de moins, un tout nouveau programme hier soir présenté par Christina Cordula, dans lequel des femmes font appel à des spécialistes pour paraître plus jeunes. Verdict pour cette nouveauté, un tout petit score, pas magnifique du tout.
Ah oui,
en moyenne, 1 600 000 curieux, 7,9% du public, c'est pas terrible. A l'inverse, j'ai un joli score à signaler pour Arte, qui proposait le documentaire Cholestérol, le grand bluff. Et ben, plus de 900 000 personnes ont passé la soirée devant ce documentaire, 4% du public.
Et puis Pierre, vous vouliez attirer notre attention sur une programmation un peu spéciale hier sur France 2. La 2 proposait une édition spéciale hier matin.
Oui, une édition spéciale de l'information animée par Julien Bugier dès 10h25 et jusqu'à 11h35. Une édition spéciale pour suivre l'hommage national rendu aux Invalides à Aurélia, Anthony, Brice et Damien, les 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris tués par leurs collègues radicalisés. Cette édition spéciale de France 2 a été suivie par 490 000 Français, 13,3% du public, et à noter que la déclaration d'Emmanuel Macron a rassemblé 930 000 téléspectateurs, 18,5% de part de marché.
930 000 sur la 2, mais il était également présent sur les autres chaînes d'info continue.
Sur les chaînes d'information.
Donc, si on additionne tout, ça fait beaucoup plus. Merci beaucoup, Pierre. À demain.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Place maintenant au journal des médias de Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors qu'avez-vous pour nous en ce mercredi matin ?
Ce matin, nous avons une affaire compliquée entre une pâte à tartiner et une chaîne de télé. Une affaire compliquée entre un homme politique et une chaîne de télé. Une affaire compliquée entre un dessin animé et deux plateformes vidéo. Et une affaire qui roule, et qui roule bien, pour une société de jeux vidéo.
Et alors Cyril, on commence donc par une séparation, celle de Nutella et de Paris Première.
Dommage collatéral des saillies islamophobes d'Éric Zemmour à la convention de la droite. La marque Nutella a décidé qu'elle ne mettrait plus de publicité autour du programme Zemmour et Nolo diffusé sur Paris Première. La marque avait été interpellée sur Twitter par le compte Sleeping Giants, qui se présente comme un collectif de citoyens de lutte contre le financement du discours de haine. Ce collectif emploie une technique bien connue sur Internet, le name and shame en anglais, qui consiste à nommer publiquement quelqu'un ou quelque chose pour lui faire honte. Mission réussie, puisque Ferrero, la marque à qui appartient Nutella, a vite réagi et fait savoir qu'elle ne cautionnait pas les propos de Zemmour et donc ne mettrait plus de pub dans Zemmour et Nolo. Cette situation nous rappelle ce qui s'était passé en mai 2017 quand une soixantaine d'annonceurs avaient fui « Touche pas à mon poste » suite au dérapage de Cyril Hanouna. Mais comme souvent dans de telles situations, tout le monde avait repris ses bonnes vieilles habitudes une fois les polémiques passées.
Alors Cyril, vous savez, dans cette émission, on parle de toutes les formes de médias, donc également de jeux vidéo et surtout quand leurs succès sont foudroyants.
Et il s'agit bien là d'un succès planétaire. Le jeu Call of Duty Mobile a été téléchargé 100 millions de fois en une semaine. Oui, 100 millions de fois. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire des jeux sur smartphone. À titre de comparaison, Pokémon Go, lui aussi un véritable phénomène, avait attiré un peu plus de 85 millions de personnes lors de sa sortie il y a 3 ans.
Tu sais, j'adore faire ce genre de choses parce que j'adore les Pokémon.
Voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de Call of Duty, vous êtes dans la peau d'un militaire et vous flinguez tout ce qui se présente face à vous, simple mais terriblement efficace. L'an dernier, le lancement de Call of Duty 4 avait rapporté plus de 500 millions de dollars pour le seul week-end de son lancement, juste en un week-end.
Et je le rappelle, les jeux vidéo sont la première dépense culturelle de la planète devant le cinéma. Entre Jean-Luc Mélenchon et les chaînes de télé, on change de sujet, c'est une histoire compliquée.
Lundi soir, le leader de la France Insoumise accordait une longue interview à la chaîne LCI, un rendez-vous vendu comme un événement par la chaîne Info. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait accordé peu d'entretien depuis son retour de vacances estivales. Le face-à-face avec la journaliste Amélie Carouer dure 50 minutes et se déroule très bien. Sauf que. Le débrief qui suit cet entretien est truffé de critiques contre le député de Marseille qui s'énerve donc et sur Twitter et se lâche. Le plateau de LCI, commentaire de mon interview, ramassit d'éructation et de haine. Si c'est ça du journalisme, point d'interrogation, heureusement personne ne regarde cette caricature. Voilà, c'est cadeau. Alors, on serait tenté de dire, mais pourquoi diable êtes-vous allé sur cette chaîne que je cite personne ne regarde, Jean-Luc Mélenchon? Mais Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à sa première sortie du genre. En 2017, il avait déjà qualifié l'émission C'est à vous sur France 5 de traquenard, justement après y être allé.
Par définition, un traquenard, c'est après qu'on le sait. Oui, c'est pas avant, c'est sinon sûr. On n'y va pas. Pardon,
c'est sûr, c'est sûr. Lundi soir, un peu plus de 100 000 personnes quand même ont regardé son interview sur LCI. C'est pas un score fou, mais c'est tout de même un peu plus que personne.
Cyril, vous teniez à nous dire un mot sur la 13e édition du Pasteur Don.
Oui, de nombreuses chaînes de télé et de radio, dont bien sûr Europe 1, soutiennent cette opération. Vous pouvez faire vos dons pour soutenir l'Institut Pasteur, soit sur pasteurdon.fr, soit en appelant le 3620. Vous dites Pasteur Don et bien entendu, l'appel est gratuit.
Alors là, il faudra que vous m'expliquiez ce qui se passe. Un sujet qui agite les réseaux sociaux et Dieu sait qu'ils adorent s'agiter. À quoi jouent Netflix et Amazon avec la série animée South Park?
La vie des médias est faite de petits et grands mystères et en voici un tout neuf. Je vous racontais ici même il y a quelques semaines que les plateformes Netflix et Amazon s'étaient offerts les droits de la série South Park. Ce qui n'avait pas manqué de réjouir les fans de Cartman, Kyle, Kenny et Stan, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ça commence avec Netflix qui met en ligne les saisons 15 à 21, mais sans quelques épisodes. Pourquoi ? C'est là que le sujet devient délirant. Netflix France fait un premier tweet pour dire qu'ils ont été obligés de supprimer quelques épisodes au prétexte qu'ils auraient été censurés en France, ce qui est faux. Il n'y a jamais eu d'épisode censuré en France. Le CSA avait simplement mis en garde une chaîne qui avait diffusé des épisodes, mais sans les interdire. Puis, deuxième tweet. En fait, Netflix n'aurait tout simplement pas les droits de certains épisodes, propriété de la société Viacom, propriétaire de la chaîne Comedy, qui diffuse aux États-Unis et partout dans le monde en général, South Park. Quant à Amazon, là encore, c'est autre chose. Il n'y a tout simplement pas le moindre épisode, pas la moindre saison de South Park
disponible. Ils les ont achetés sans les diffuser.
Voilà, c'est ça. Vous l'avez compris. L'imbroglio est total et on en vient à se dire que les deux plateformes ont communiqué un peu trop vite pour se faire mousser sans savoir exactement ce que contenait leur contrat. Alors quand même, pour le plaisir et aussi parce qu'il est possible que tout le monde ne connaisse pas South Park, je vous propose un petit extrait qui se déroule dans une salle de classe.
Combien font 5 x 2 ? Oui Clyde ?
12 !
Loupé ! Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Qui d'autre ?
Moi je crois que je peux répondre, monsieur Garrison.
Ta gueule, gros con.
Eh, hey, me traite pas de gros.
Eric, j'ai cru t'entendre dire un gros mot.
Fais-je? Mais non, enfin c'est on dit pas à l'école.
Kyle.
Mais
Eric.
Putain, t'as encore dit
Stanley. Kenny, ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école?
Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire.
Oh, c'est vous qui avez bipé, Cyril.
Ouais, c'est nous qui bipons, ouais, on est obligé. Hein.
Ah bon, mais c'est pas diffusé comme ça. Non, on entend tous les mots.
Ah, on entend tous les mots.
Oh là là, dis donc, tu m'étonnes. À suivre alors. Merci pour cette fin tout en douceur et en élégance, Cyril Lacarrière. Retour du journal des médias non bipé, demain, même heure.
Même heure.
Dans un instant, l'infomédia du jour, on va parler de la fiction Connexion Intime diffusée ce soir sur France 2. Ou quand les médias parlent de pornographie aux jeunes, Philippe Vandel y revient dans un instant avec ses invités sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Je vais commencer par un chiffre, juste un. Alors que le porno est théoriquement interdit aux moins de 18 ans, 65% des jeunes adultes déclarent avoir vu leurs premières images pornographiques avant l'âge de 15 ans. Pas 18, 15. Et c'est un peu le thème de la grande soirée que propose France 2 ce soir. Ça s'appelle la soirée continue, thème pornographie jeunesse en danger. Il y aura une fiction, puis un documentaire, puis un débat animé par Julien Bugier. Pour parler de ces problématiques, je reçois Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence.
Fabienne,
excusez-moi, productrice du téléfilm Connexion Intime. J'écris Fabienne ici, j'écris Florence là. Et je reçois Laure de Colbert. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez Laure, vous êtes scénariste du film. Première question, Fabienne Servan-Schreiber. Le problème du porno chez les jeunes, ça va bien au fait, au-delà du fait de voir des gens en train de faire l'amour pour de l'argent. Il y a aussi des problèmes de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, de harcèlement scolaire, pardonnez-moi, de violence sexuelle. C'est polysémique comme problématique.
Oui, parce que si vous confrontez des enfants très jeunes à des images d'une telle violence, d'un tel atypisme et d'une telle où l'image de la femme est extrêmement dégradée, ça entraîne chez eux déjà des comportements souvent addictifs, souvent violents et souvent complètement inappropriés par rapport à leur âge. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie vie sexuelle. Ils vont se faire des idées et ils vont dériver dans des histoires absolument inappropriées.
Et vous voulez dire qu'il n'y a plus de césure entre la normalité et l'anormalité à l'apostrophe?
Oui, parce que si vous voulez, ils voient des comportements qui sont donc de la fiction, puisque le porno, ce sont des acteurs qui sont payés pour faire des choses invraisemblables, d'ailleurs, enfin, qui peuvent exister. Les adultes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, bien entendu. Mais les tout petits enfants, ils croient que c'est ça que leurs parents ont fait, et c'est comme ça qu'ils vont aborder la vie sexuelle. Ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'il faut y avoir dans l'approche de la sexualité et la découverte de l'autre et le respect de l'autre et sa propre liberté par rapport à une vie sexuelle. Là, on leur impose des comportements, en tout cas, ils le vivent comme ça, et ça donne des situations dramatiques chez des très jeunes.
Alors justement, les situations, on y vient. Laure de Colbert, le téléfilm Connexion Intime qu'on va voir ce soir a été primé au Festival de Fiction de La Rochelle. Comment vous avez abordé le sujet? Il y avait tellement de thèmes, tellement de facettes à explorer. Comment vous avez construit le synopsis?
Eh bien, en fait, je me suis dit qu'il fallait raconter une histoire d'amour. Et généralement, en fait, dans les bonnes histoires d'amour, il y a toujours un obstacle. En général, c'est la famille ou la religion, par exemple.
Roméo et Juliette.
Voilà. Et aujourd'hui, une façon peut-être contemporaine de raconter une histoire d'amour, c'était de montrer que des images pornographiques allaient s'interposer entre les amants.
Alors justement, racontez l'histoire d'amour que vous avez choisie.
Elle est très simple. C'est une jeune fille qui arrive dans un nouveau collège, c'est une sorte de topos, hein, c'est la jeune fille un peu innocente, et qui rencontre un garçon extrêmement séduisant, qui a une tête d'ange d'ailleurs, mais qui malheureusement est addict au porno. Donc il a une façon d'aborder l'amour qui va... Ils vont être très décalés et pas vraiment s'accorder et se rencontrer.
Ils ont quel âge ?
Ils ont 15 ans.
Mais il y a aussi une histoire à 3. C'est ce qui m'a étonné, parce que normalement, les plans à 3, c'est plutôt pour les adultes. Et là, ils ont 15 ans, ils font des plans à 3 déjà. Racontez ça. Déjà, c'est étonnant.
Oui, bah ça, c'est quelque chose qui, justement, je pense, vient de l'imprégnation pornographique. C'est-à-dire que il y a un panel de situations dans les films qui élargit l'horizon de la sexualité. Et donc, les jeunes pensent que c'est tout à fait naturel de commencer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes dont la première expérience amoureuse se fait à 3. Parce qu'ils ont vu ça, c'est des modèles pour eux. Mais voilà, bon.
Votre comédienne, elle s'appelle Luna Carpio, c'est bien ça? Je ne me trompe pas, non, je fais attention maintenant avec les noms. Elle a été primée à La Rochelle, meilleure interprétation féminine. On va la voir, on va entendre un extrait. Ça se passe dans un commissariat, c'est la maman d'un ado, il s'appelle Félix, si je me souviens bien, qui a été convoqué alors que son fils est en garde à vue dans une cellule à côté et la maman semble tomber des nues.
Votre fils a reconnu être l'auteur de cette vidéo et de sa publication sur les réseaux sociaux.
Ouais, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est un délit. Porter à la connaissance du public des images à caractère sexuel sans l'autorisation de la personne est passible de 2 ans de prison et de 60 000 euros d'amende.
Elle n'était pas consentante?
Pour la fellation, si.
Ah bah alors où est le problème?
Il y a deux choses, madame. D'une part, le consentement à l'acte et le fait d'être filmé. Et d'autre part, le consentement à la diffusion de cette vidéo, vous comprenez? Apparemment, Félix a publié cette vidéo pour se venger d'une humiliation.
Mais non, mais c'est une histoire de gamin. Évidemment que Félix voulait pas lui faire de mal.
Vous savez ce que c'est, ça? C'est du revenge porn. 80% de victimes féminines. Il y en a même qui se suicident à avec des images comme ça.
De toute façon, Félix est mineur, donc vous pouvez rien contre lui. Même si cette petite porte plainte, les poursuites aboutiront pas.
Bah, vous trompez. Même mineur, il est passible de poursuites.
Je pense aux parents qui nous écoutent. La mère défend son enfant. Laure, elle ne voit pas où est le problème, où est le mal.
Bah, oui, je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement délicats. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte en travaillant dessus, en parlant autour de moi, que ça mettait mal à l'aise beaucoup de gens. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai l'impression qu'on vit une époque avec une assez grande liberté morale. Et en fait, non, ça relève de l'intimité. J'ai l'impression que ça renvoie même les parents à leurs propres problèmes intimes. Donc, il y a beaucoup de déni autour de cette question.
Comment vous avez travaillé en amont? Vous avez enquêté? Comment ça s'est passé?
Alors, d'abord, en fait, j'ai lu des choses. La première chose qui m'a marquée, c'était l'histoire d'un fait divers assez simple. C'était une jeune fille dont l'ex-copain avait publié des photos sur Internet. Et le frère de cette jeune fille est allé voir l'ex-copain pour le tabasser quasiment à mort. Mmh. Voilà. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes avec qui j'ai beaucoup parlé. J'ai aussi rencontré une psy pour lui confronter un peu mes intuitions avec ce qu'elle voyait en consultation. Et elle m'a raconté des choses tout à fait effrayantes. Donc je peux vous dire que dans la fiction, on est plutôt en deçà de la réalité.
Voilà. Fabienne Servan-Schreiber, vous êtes la productrice non seulement de ce téléfilm, mais du documentaire qui suit. Quelle était la feuille de route de la chaîne de France 2? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de faire?
Ah non, ils ne m'ont rien demandé, c'est moi qui leur ai proposé.
D'accord.
Je leur ai proposé et la fiction et le documentaire sur ce sujet, parce que c'est effectivement un sujet extrêmement tabou en France, alors ouais. Les chiffres sont hallucinants. Vous avez des professionnels comme le professeur Nizan, comme Serge Effez et d'autres qui alertent depuis des années et des années sur la dangerosité de cette situation.
Nizan Effez qu'on entendra ce soir dans le débat avec Julien Bugier. Et
absolument.
Je vais retourner ma question, puisque c'est vous qui avez proposé ça à la chaîne. Pourquoi cette problématique vous a intéressé à ce point?
J'ai écouté un jour une émission, je pense même que c'était sur votre chaîne, un après-midi d'été, et j'ai entendu des professeurs et des psys et des professionnels raconter des choses abominables. Et je me suis dit, mais ça, c'est hallucinant, il faut absolument en parler.
Une dernière question à propos du téléfilm, est-ce qu'il doit être vu en famille, ou par les parents seuls, ou par les enfants? Parce que vous dites, ça pose un problème, ça vous fait sourire lors de Colbert. Oui. Qui va regarder, qui va se mettre devant l'écran?
Comme disent les jeunes, c'est un peu malaisant de regarder ça en famille.
Bien sûr.
Parce que c'est assez cru quand même et que ça relève de l'intime. Mais après, ça peut permettre aussi de libérer un peu la parole entre parents et enfants sans entrer dans leur intimité, mais de dire que justement, par exemple, pour nous, c'est pas la réalité.
Vous restez avec nous sur Europe en direct et je précise, le téléfilm s'appelle Connexion intime. Pourquoi je le dis? Parce qu'on peut le revoir en replay. Et donc, vous pouvez le regarder, je m'adresse aux jeunes sans les parents et je m'adresse aux parents pour le regarder sans les enfants.
Et en famille aussi, aucun souci.
Triangle amoureux, vengeance, humiliation, addiction à la pornographie, la fiction Connexion intime, diffusée ce soir sur France 2, interpelle sur ces sujets de société souvent tabous. On y revient dans un instant dans l'infomédia du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous nous parlez ce matin, Philippe Vandel, dans l'infomédia du jour, de l'alerte sur les dangers de la consommation de la pornographie dès l'adolescence. Vous nous en parlez à travers cette fiction Connexion intime diffusée ce soir sur France 2. Vos invités, la productrice du film, Fabienne Servan-Schreiber, et Laure de Colbert, scénariste de la fiction.
La deuxième partie est consacrée à un documentaire, Pornographie, un jeu d'enfant. Il est signé Anne-Marie Avouac, avec des chiffres qui, là encore, sont édifiants. En France, c'est en moyenne à l'âge de 10 ans qu'un enfant est confronté pour la première fois à la pornographie en ligne. Les spécialistes parlent de viol psychique, car ils estiment que les conséquences psychologiques et affectives de cette exposition sont dramatiques. Fabienne Servan-Schreiber, c'est vous qui avez produit ce documentaire. Quelle a été votre approche en marge de la fiction qui aura été diffusée juste avant? Qu'est-ce qu'il y a dans le doc qu'il n'y a pas dans la fiction?
Il y a des témoignages de jeunes. Voilà, donc souvent à visage découvert, parce qu'on peut très bien le comprendre. Il y a une jeune femme formidable qui s'appelle Sol, qui elle parle à visage découvert parce qu'elle assume absolument et qu'elle en parle avec des mots extraordinaires. Et donc, on a d'abord cherché ces témoignages et après, on les fait décrypter, bien sûr, par des professionnels qui racontent. Et vous avez également une formidable gendarme, une femme gendarme qui est de la brigade de Nîmes et qui est en pleine action avec une toute petite fille de 10 ans et qui essaie de la faire, j'allais dire accoucher, de la faire avouer, de la faire raconter tout ce qu'elle est en train de faire sur Internet, et c'est un moment saisissant. Et je voulais vous donner le nom de cette gendarmette, je vais le retrouver.
D'accord.
Cette gendarme, pardon.
On va entendre,
femme
en attendant,
gendarme.
Moi j'ai son nom, le gynécologue Israël Nizan, qui mène des actions dans les lycées et les collèges.
Il y a des établissements scolaires qui me demandent de venir une année plus tôt parce qu'il y a des fellations collectives dans les toilettes. Ça ne se produisait pas avant ça. Qui leur a appris ça? Qui leur a appris ça? Et moi, je dis d'une société qui laisse ses enfants en stabulation libre devant ces images-là, sans les accompagner d'une parole des adultes, que c'est une véritable barbarie.
Question, pour reprendre les termes du docteur Nizan, comment accompagner avec des paroles d'adultes? Qui doit parler et à quel moment? Fabienne Servan-Schreiber.
Écoutez, d'abord, il doit y avoir de l'éducation sexuelle dans les écoles. Voilà, il faut en parler le plus tôt
possible.
Elle y est,
non, c'est dans les textes de loi.
C'est dans
ou est-ce qu'elle
n'est
pas faite?
C'est pas appliqué. Ça n'est pas appliqué. Il y a beaucoup de résistance. Vous le savez, il y a eu des expériences douloureuses de certains ministres qui ont essayé d'avancer, qui s'en sont pris plein la figure sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que vous parlez aux enfants avec des mots différents quand ils ont 3 ans, quand ils ont 11 ans, quand ils ont 16 ans. Mais je crois qu'il faut absolument les familiariser avec la vérité de ce qu'est la sexualité, évidemment avec des mots appropriés. Voilà. Après ça, il faut que les familles parlent. Et si les parents n'osent pas parler en direct, ce que je peux comprendre, qu'ils signifient à leurs enfants que leurs enfants peuvent parler à un autre parent, un oncle, une tante, une marraine, voilà. Parce que beaucoup de ces enfants ont vu ces images, culpabilisent de les avoir vus, ne comprennent pas ce qui s'est passé et gardent tout ça pour eux.
C'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Lord Colbert, je sais que vous avez des enfants, ils ont quel âge?
Ils ont 16, 14 et 11 ans et demi.
Et vous en parlez avec eux ou pas?
Avant, j'en parlais pas, j'avoue. Et là, j'ai juste fait passer le message que je pense qu'ils ont certainement vu des images parce que tous les enfants en ont vu et que juste, c'est pas la réalité. Ce sont des fictions.
Et ils ont répondu, ils ont parlé avec vous?
Ils n'ont pas vraiment parlé, mais ils ont entendu.
Question encore à vous. Qu'est-ce que la fiction dont vous avez signé le scénario, je le rappelle, peut montrer ou faire ressentir qu'un documentaire qui arrive après ne peut pas?
Ben, moi, en fait, je pense que j'avais envie de parler de l'amour en général, enfin d'élargir un peu le sujet parce que j'ai l'impression que notre rapport au temps, il a changé et donc notre conception de l'amour est obligée de changer. La conception de l'amour telle qu'on la connaît depuis le XIIe siècle avec l'amour courtois et ensuite jusqu'à Stendhal, la cristallisation, cet amour-là, ça exige de la lenteur, du temps. Et aujourd'hui, tout va très 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 vite. Et donc forcément, l'amour ne peut plus être le même. Au début, d'ailleurs, le téléfilm s'appelait La fin de l'amour. Donc, je ne pense pas qu'il faille être pessimiste, mais simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'inventer un nouveau modèle.
À 23h35, après la fiction, après le documentaire, il y aura un débat, pornographie, jeunesse en danger, animé par Julien Bugier. Alors, il y aura notamment Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État à la protection de l'enfance parmi les débatteurs, le professeur Nizan, gynécologue, Serge Effèze, pédopsychiatre. J'ai retrouvé le nom de l'adjudante Ingrid Lefebvre, de la brigade de prévention
femme.
De la délinquance juvénile du Gard.
Merci.
Et Camille, qui a 22 ans, qui est une jeune femme, je la cite, qui a créé l'Instagram « Je m'en bats le clito ». C'est le terme. Pour répondre à des questions sur la sexualité et le plaisir féminin, elle a presque 400 000 abonnés, dont la majorité a entre 13 et 18 ans. Fabienne Servan-Schreiber, le débat a déjà été enregistré.
Oui, oui,
vous l'avez vu. Qu'est-ce qui s'y dit?
C'est-à-dire que toutes ces personnalités très différentes et ces générations différentes convergent vers le même sujet qui est attention à ce qui est en train de se passer. Il faut réagir. Alors, vous avez Google qui est en train de réagir et qui commence à préparer beaucoup de choses pour lutter, donc je tiens à le signaler. Vous avez le gouvernement qui a annoncé des mesures, qui a pré-annoncé. Ils vont le faire au mois de novembre. Mais après, c'est une affaire de chaque famille, de chaque institution. Et de chaque adulte.
Et en même temps, Google, si, ou Internet, si vous êtes sur l'ordi de la famille et que vous dites que vous avez plus de 18 ans, ça passe. Ils ne vont pas faire la distinction entre savoir si la personne qui tape sur les touches a 13, 18 ou 25 ans.
Ils vont essayer tous de trouver des solutions, même techniques.
Question, que faire si des parents qui nous écoutent se sentent désemparés parce qu'ils découvrent que leur fils, leur fille est accro au porno? Il y a des modules pédagogiques qui vont même être opposés en marge de toute cette grande soirée.
Voilà, parce qu'on a fait des modules pédagogiques qui posent les questions que les enfants peuvent se poser ou que les adultes peuvent se poser. Donc, que ce soit dans les familles ou dans les classes, un professeur peut s'en saisir, le montrer à ses élèves et déclencher la discussion. C'est formidable.
Je vais dire où est-ce qu'on les trouve. Ils seront bientôt en ligne sur education.francetv.fr. Merci beaucoup Fabienne Servan-Schreiber d'avoir été avec nous, productrice du téléfilm Connexion Intime. Sa scénariste, c'est Laure de Colbert. Merci également d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, la soirée continue, pornographie, jeunesse en danger, la fiction Connexion Intime, le documentaire, puis le débat animé par Julien Bugier. C'est toute la soirée d'aujourd'hui sur France 2. Merci à vous deux.
Et merci à la télé publique et à la radio publique qui nous soutiennent.
Merci. Dans un instant, on accueille l'homme fort des programmes de France 3. C'est Cyril Ferraud qui est notre invité dans Culture Média sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Cyril Ferraud.
Bonjour Cyril Ferraud.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes, comme on dit, l'homme fort de France 3, pas moins de 4 émissions à vous tout seul. Vous présentez les jeux Slam et personne n'y avait pensé, aussi le Grand Slam. Slam qui permet, je le signale, à France 3 d'être leader, toutes chaînes confondues chaque après-midi. Mais vous revenez surtout pour la 3e saison de la nouvelle version de la carte au trésor. Ce soir, ça sur France 3, ça va se passer dans les Côtes d'Armor, près de la côte de Granit Rose, émission mythique créée en 96, qui elle-même faisait suite à la chasse au trésor créée par Philippe de Dieuleveux en 81, que vous avez relancé et ça a marché. Comment sont les audiences ?
Ben les audiences se portent à merveille. Ce qui est génial, c'est que relancer la carte au trésor, c'est une idée que j'ai eue, qu'Emmanuel Garcia, le patron des Jeux de France Télé, a eue aussi. On est allés tous les deux, main dans la main à l'époque, convaincre la direction de France 3. C'était Dana Astier, notre patronne. Ouais. Et au début, elle nous a dit, le jeu avec les hélicos, mais vous êtes sûr, vous êtes sûr ? Et on lui a dit, mais oui, parce que c'est un jeu qui avait manqué, je trouve, aux Français, qui manquait à France 3, parce que c'est une façon de découvrir le patrimoine, les régions françaises de façon ludique. Et ben, le pari est réussi, puisqu'on démarre la saison 2 inédite ce soir, avec des audiences pour la première saison qui était autour de 2 millions. Donc aujourd'hui, rassembler 2 millions de téléspectateurs en prime time pour un jeu sur le patrimoine, c'est déjà énorme. Et on est autour de 11%. Donc le pari était gagné.
Et je peux dire, votre record, c'était le 25 avril dernier, 2,77 millions quand vous étiez au-dessus de Montpellier.
Exactement.
Alors racontez le principe du jeu et surtout les variantes et les améliorations, à part le fait qu'il y a des caméras HD, que vous y avez apporté.
Alors déjà, deux candidats s'affrontent, un bleu, un rouge, chacun à bord de son hélico. On a une zone de jeu qui va dans chaque émission. On survole des départements français. Le principe, c'est de résoudre trois énigmes, de mettre la main sur des indices qui permettent de retrouver la rose des vents. La rose des vents, c'est l'accès au trésor. Voilà, il y a une épreuve du trésor en fin d'émission qui leur permet de gagner 5000 euros. Et tout ça n'est qu'un prétexte à survoler le patrimoine, à découvrir la beauté de notre paysage. Et moi, je suis dans mon hélico en tant que maître du jeu, entre guillemets. Ah, donc à la fois pour rappeler les règles, pour titiller un peu les candidats, et puis surtout pour expliquer aux téléspectateurs tout ce qu'on est en train de survoler de façon, encore une fois, ludique et tout sauf... Ce qui était important, c'est que je ne voulais pas être un prof d'histoire rébarbatif ou un prof de géographie un peu relou. Voilà, donc je travaille beaucoup les textes pour que ce soit souriant, pour qu'on découvre des trucs et qu'on puisse faire venir les enfants. Parce qu'on fait le record à chaque diffusion sur les enfants, sur France 3.
D'accord. Vous avez vu, on sent le vécu, vous avez des profs d'histoire un peu relou.
Un peu relou. Alors moi, j'étais nul en histoire, figurez-vous. Ouais. Alors, je me suis amélioré parce que j'ai fait l'émission de Nagui hier soir où je m'en suis plutôt bien sorti. Mais mais c'est important de raconter les choses de façon ludique. Vraiment.
Alors, bien avant Koh-Lanta, bien avant Pékin Express, on voit vos candidats qui courent partout pour arrêter des voitures, pour arrêter des gens, parce qu'une fois qu'ils ne restent pas dans leur hélico, ils descendent. Et puis, on va voir la première énigme. Ils sont descendus de l'hélico, le candidat bleu arrive à Perros-Guirec et là, il tombe sur une petite dame habillée en gris qui a un petit accent.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bastien pour la carte de trésor. J'ai une petite énigme à résoudre. Peut-être que vous pouvez me donner la réponse.
Oui.
Y a-t-il un chapeau, une structure
de Napoléon ? Il n'est pas vraiment à Perros. Il est beaucoup plus loin. Il est à Ploumanac.
D'accord.
Et c'est sur la droite de la plage.
D'accord.
Vous avez le chapeau.
Alors la dame est super informée et lui indique qu'il faut aller à Ploumanac. Ils repartent donc dans l'hélico pendant que la candidate rouge arrive à Perros-Guirec et elle tombe sur une petite dame habillée en gris avec un petit accent.
Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez le chapeau de Napoléon ?
Oui, le chapeau de Napoléon, c'est un rocher qui se trouve à Ploumanac.
Non mais attendez, les témoins, vous les avez payés. C'est pas possible.
Jure que non.
Mais non, mais c'est pas possible qu'une personne connaisse tout ça.
Je vous jure que non.
Mais
parce
non,
que
arrêtez.
Là, le chapeau de Napoléon, c'est un rocher taillé dans le granit qui est très connu dans le coin. Donc les candidats se sont posés sur leur première destination. Ils ont choisi la même et ils sont tombés sur cette dame qui, voyant les hélicos arriver, était dans le coin. Non, en revanche, alors, je vais vous dire la vérité. Il nous est arrivé un jour, par exemple, c'était dans le Lot. L'énigme la plus importante, c'est la rose des vents. On avait caché la rose des vents dans un château tenu par d'anciens alchimistes où on avait fait l'alchimie à l'époque. Eh ben figurez-vous que le candidat se pose à Cahors alors qu'il n'avait rien à faire à Cahors. Il se prend mais 10 vents sur le parking, personne ne veut lui répondre et il tombe sur une dame qui est la copropriétaire du château.
Non.
Et moi je suis dans l'hélico en ouvrant les yeux grands comme ça en me disant c'est une catastrophe, les gens vont penser que tout est truqué, etc.
Ouais. Là on pense, hein, je vous signale.
La dame franchement n'avait rien à voir avec nous, on avait traité avec son frère pour pouvoir louer le château entre guillemets. Cette dame elle était à Cahors parce qu'elle travaillait là et le hasard fait que le candidat est tombé sur elle.
Vous dites dites, Cyril Féraud, que la vraie vedette de l'émission, c'est l'hélico. Est-ce que c'est pas un peu politiquement incorrect à l'heure des bilans carbone généralisés?
Non, parce que justement, on s'est engagé pour cette nouvelle saison à compenser entièrement les émissions carbone de nos hélicos. Ouais. On s'est associé à une entreprise à vocation sociale, comme on dit, qui s'appelle Reforest Action et qui replante en fait des arbres dans des zones qui ont des problèmes de qui ont besoin d'être reforestées, comme on dit, de reforestation. Quoi. Ouais. C'était très important parce que on peut pas utiliser aujourd'hui de l'hélicoptère sans compenser sur le service public. Voilà, tout simplement. On est en 2019. C'est un jeu qui n'est pas gratuit. C'est pas un jeu où on dit vous montez dans des hélicos, vous faites la course, vous polluez, on s'en fout. Les hélicos, ils sont là pour montrer la beauté de nos paysages, pour faire des images aériennes sublimes. Et donc, en contrepartie, comme Yann Arthus Bertrand d'ailleurs le faisait pour ses documentaires, on s'est engagé à compenser tout ça.
On voit deux hélicos, en fait, il y en a quatre.
Il y en a quatre. Il y a les deux hélicos des candidats, il y a le mien pour suivre la course et un hélico qui nous sert de régie pour toutes les transmissions radio.
Alors, si je suis bien informé, vous n'aimez pas l'hélicoptère ou plutôt votre estomac n'aime pas?
Non, alors moi j'adore l'hélicoptère.
Ouais, mais pas votre estomac.
Alors le seul truc, c'est que
moi j'ai le même problème avec le bateau.
Non, alors je vais vous dire, c'est mon hélico qui fait toutes les prises de vue aériennes. C'est-à-dire que je suis à l'avant de mon hélico, mais retourné pour parler à la caméra. Vous voyez, de façon à ce que les paysages défilent dans mon dos. Et mon hélico faisant les prises de vue aériennes passe des heures à faire des plongées, des virages, des remontées, des descentes. Donc en fait, je mange toute la journée, puisque sinon j'ai la nausée. Donc toute la journée, je mange du saucisson, des madeleines. C'est la pire émission pour moi en termes de nutrition, hein, la carte au trésor.
Oh, dis donc, il doit sentir bon votre hélico.
Ah, quand quelqu'un veut du saucisson, il vient dans mon hélico, sachez-le. C'est vendeur ça ou pas?
Ouais. Il y a 4 ans, pardon de rappeler ça, pendant le tournage de l'émission Dropped, il y avait un gros accident d'hélicoptère double qui avait fait 10 morts, dont Florence Artaud, dont Camille Muffat. Quelles précautions avez-vous été obligé de prendre cette fois-ci?
Une bible de 120 pages de conditions de sécurité. C'est-à-dire que je peux vous en citer quelques-unes. On ne peut pas décoller en même temps. Deux hélicos ne peuvent pas décoller en même temps. On ne vole jamais à la même hauteur, de façon à ne pas pouvoir se percuter ou se croiser. Il y a vraiment une bible de 120 pages et toute la sécurité, les conditions de sécurité ont été mises en place par la production en collaboration avec la DGSA, qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC d'ailleurs, qui s'est engagée avec nous et nous on s'est engagé vis-à-vis d'eux à être très strict en termes de sécurité. Donc moi je n'ai jamais eu la moindre appréhension.
L'an passé on vous a autorisé ce qui avait toujours été interdit, survoler des villes. Où est-ce que vous en êtes de votre projet dingue de faire le jeu à Paris, dont le survol est théoriquement interdit?
Alors sincèrement, on l'a étudié, il n'y a qu'un problème, c'est que si on fait ça à Paris, aujourd'hui, vous qui vivez à Paris, vous savez très bien qu'on ne peut plus circuler dans la ville.
Pas possible.
Donc je pense qu'il nous faudrait une semaine pour tourner l'émission. Non, je pense qu'en termes d'image, ça serait incroyable, et la carte au trésor ne s'est jamais fait à Paris. On a des hélicos bimoteurs qui nous permettent de survoler des villes, donc bimoteurs, deux moteurs. Paris, ça serait fantastique, mais le problème c'est que, imaginez, déjà ils vont se poser où en hélico? Ils vont se poser que dans des stades à Paris, parce qu'aller trouver des endroits où vous pouvez poser un hélico. Et puis après, pour aller d'un point A à un point B, ça prendrait des heures.
Devant l'hôtel de ville, comme ça, on pourrait discuter avec Anne Hidalgo. Vous restez avec nous, Cyril Féraud.
Oui, c'est l'invité de Culture Média pour parler de son actualité sur France 3 et notamment le lancement de la saison 2 de la carte au trésor ce soir. On se retrouve juste après ça avec Philippe Vandel sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Cyril Féraud est l'invité de Culture Média. On parle, Philippe, de son actualité sur France 3, de sa carrière.
Son actualité, c'est aussi passer de chez le nettoyeur, ce qui vient de nous avouer que son caméraman lui avait déjà vomi deux fois sur les pieds dans l'hélicoptère.
Ça m'apprendra à parler pendant la pub.
Vrai ou faux? Autres émissions que vous présentez, Cyril Féraud, il n'y en a pas moins de 3. Là encore, vous êtes content des audiences. Je vais les citer. Il y a Slam, le grand Slam. Personne n'y avait pensé.
Exactement. Slam tous les jours depuis 10 ans. On va fêter les 10 ans au mois de janvier et qui se porte toujours merveilleusement bien. Et on a lancé depuis 2 ans. Personne n'y avait pensé. Juste avant Slam, tous les jours. C'était un vrai pari d'avoir une deuxième quotidienne, un deuxième jeu. Je joue donc avec les téléspectateurs 1 heure tous les jours et ils ont été au rendez-vous dès les premières semaines de diffusion de Personne n'y avait pensé. Donc ça c'est chouette. Et on a toujours le grand slam le week-end.
Et nouveau projet, où est-ce que vous en êtes du grand concours des chorales?
Eh ben, on a pas commencé à travailler, on travaillera en début d'année sur ce grand concours. L'idée c'est d'élire la plus grande chorale de France.
C'est votre première émission 100% variété sur la 3. Racontez le principe. Alors qu'est-ce qui va se passer?
Alors je vous dis, on n'a pas encore vraiment commencé à bosser dessus, mais l'idée ça va être d'élire la plus grande chorale de France
la meilleure
chorale de France.
C'est pas
sélectionnant... Non, je vous jure que non. D'accord. En sélectionnant des chorales qui viennent de toutes les régions, puisque l'idée c'est de mettre en avant les régions, et j'ai hâte qu'on y soit.
Vous avez peur de rien?
Bah, j'ai peur de rien, j'ai peur de plein de trucs et de rien à la fois.
Non, je veux dire, en 2011 France 2 avait programmé un concours de chorale avec deux voix aux commandes, il s'était planté. En 2009 TF1 avait programmé un concours de chorale avec Castaldi aux commandes, Benjamin, il s'était planté.
Ouais, bah j'ai la réponse, c'est que c'était des concours de chorale a cappella. Alors que nous, l'idée, c'est pas du tout de faire des concours de chorale a cappella, c'est d'avoir des artistes qui seront là et qui viendront chanter avec les chorales.
Mais le principe d'une chorale, c'est a cappella, non ?
Non, bah non. Regardez les 300 chœurs, qui est une marque qui cartonne depuis des années sur France 3, ce sont des artistes qui chantent avec des chorales.
Pas faux, vous avez raison, et les chœurs de l'armée rouge. question primordiale, est-ce que la famille Balesta va retrouver le meurtrier de Jérôme ? Et accessoirement, est-ce que Marion et Elsa vont vraiment faire un braquage ?
Alors, là, vous me parlez de Plus belle la vie, c'est ça ?
Ouais.
Alors, je ne sais pas. Parce
non,
que...
vous avez reconnu ou pas ?
Ah, bah, bien sûr.
Non, je veux dire pourquoi ? Parce que.
Plus belle la vie.
Mais oui, parce que on lui demande ce qu'il aime en télé dans la presse. Et Cyril Ferraud dit : moi, j'adore Plus belle la vie et Un si grand soleil. Donc, ouais, je veux savoir si vous suiviez.
Mais c'est vrai, mais franchement. Dingue. Et la famille Bastide s'est remariée dans Un si grand soleil. Non, alors, j'ai qu'un problème, c'est que j'ai un tel planning là que c'est compliqué. Donc, de temps en temps, je m'avale 3-4 épisodes en replay le week-end.
C'est
voyez,
vrai ?
Ça me détend. Ouais. Bah, j'ai tellement peu de place pour me détendre puisque je travaille tous les week-end, tous les samedis. C'est très rare que j'ai un dimanche entièrement tranquille, sans avoir des textes à écrire ou à retravailler ou même en étant en déplacement sur la carte trésor. Donc de temps en temps, ça me détend ce genre de choses.
Je trahis pas un secret intime. En juin, c'est beaucoup moins drôle. Vous avez perdu votre papa et c'est assez rare pour être signalé. Vous en aviez fait l'annonce publique en direct dans l'émission Musique en fête que vous co-animiez en prime time. Pour quelle raison ?
Parce que mon papa est parti le lundi, que cette émission était prévue le mercredi en direct, que c'était une de ses émissions préférées, que j'ai mis, je peux le dire, j'ai mis entre parenthèses mon planning pendant un mois et demi pour l'accompagner. Voilà, mon papa est parti d'un cancer dans des conditions très difficiles. J'ai appelé toutes les productions, j'étais pas en état de tourner, je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et cette émission, c'était une de ses émissions préférées. Donc, j'ai voulu la faire. Voilà. Et j'avais pas communiqué nulle part.
C'était ma question, justement.
Voilà, je voulais éviter d'être paparazzé ou que ce soit dans des conditions que je n'avais pas envie d'étaler. Et j'ai fait cette émission en direct et je ne pouvais pas terminer cette émission sans avoir une pensée pour lui puisqu'il était parti 2 jours avant. Voilà, il y a des gens qui peuvent se dire dans ce genre de situation, il ne faut pas travailler, il faut rester enfermé. Voilà, moi je l'ai fait pour lui. Voilà, il m'a accompagné toute la soirée, il m'a aidé à présenter cette émission et je lui ai fait ce petit clin d'œil à la fin.
Et je dois faire cette confidence à nos auditeurs et auditrices, vous en parlez avec un grand sourire de tendresse et vous vouliez aussi couper l'herbe sous le pied, j'imagine, de la presse people.
Ouais,
vous l'avez dit comme ça, c'est plus la peine de le dire.
Paparazzé lors de l'enterrement avec ma maman dans mes bras, mais ça fait partie des rapaces de ce job. Non, mais c'est émouvant de vous parler de ça. Surtout qu'alors, pour tout vous dire, cet après-midi, on tourne un slam spécial Ligue contre le cancer, vous savez. Donc, je pense que je vais passer le meilleur moment de ma vie cet après-midi. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Mon papa m'a accompagné dans toutes mes belles aventures et il continuera.
Vous êtes très discret dans les médias, c'est un choix ? Ou c'est la presse people qui ne s'intéresse pas à vous ?
Non, c'est un choix, parce que quand vous êtes déjà à l'antenne 2 fois par jour pendant 1 heure, plus le week-end, plus une dizaine de prime par an, bah vous n'avez pas envie en plus de vous retrouver dans la presse people en train de vous passer de la crème avec qui que ce soit.
Ouais, mais on ne choisit pas en général.
Ouais, mais alors je suis assez tranquille.
Ouais.
Pour le coup, bah pourvu que ça dure.
En préparant cette interview, j'ai réalisé que ça fait 10 ans, Cyril Ferraud, que vous présentez le jeu Slam.
Ouais.
Sauf que moi, j'ai l'impression que vous avez toujours 26 ans.
Et
hier, il y avait l'émission 10 ans de moins sur M6 et je m'attendais à vous voir débouler. Non, en vrai, c'est quoi votre secret pour paraître 10 ans de moins ? C'est vrai,
mais
Céline Dacosta.
Complètement d'accord.
On dirait pas qu'il a 26 plus 10.
Ah non, 25.
Ouais.
Bah,
25.
C'est peut-être d'être sur France 3, parce que regardez Laurent Romeschko.
C'est vrai.
Vous trouvez pas que ça fait 20 ans
qu'on
a l'impression qu'il a 20 ans ?
Ça, on est d'accord. Ça fait 30 ans qu'on a l'impression qu'il en a 25. On est d'accord.
Le problème, c'est que tout le monde me dit ça, mais je pense qu'un jour je vais me prendre un bon coup de vieux dans la tête.
Ouais.
Et que là vous allez dire, ah bah ça y est, vous faites vieux beau Cyril Ferraud,
ouais.
Il est temps de rentrer chez vous.
Et vous savez ce que vous allez dire ? Vous allez dire c'est à cause du saucisson dans l'hélico.
Exactement. Voilà,
non, mais racontez-nous ce que vous avez raconté, parce que j'imaginais pas ça. Racontez l'effet du saucisson dans l'hélico, ça sera ma dernière question.
Mais c'est que ça me fait des boutons. Mais
ah oui, la charcuterie, c'est connu.
Ce
pour
soir
ça.
Vous ne verrez pas de saucisson, mais vous verrez les côtes d'Armor, la côte de granit rose, l'île de Bréa et toutes les beautés de la carte au trésor. Mais maintenant vous savez qu'entre deux énigmes, je mange un petit bout de saucisson.
Magnifique l'île de Bréa, les images, j'ai vu, ça fait mon prodigieux.
Incroyable.
Les autres tournages, ce sera où ?
Alors la semaine d'après, on sera en Seine-Maritime. La semaine suivante, dans les lacs de Savoie. Et puis on a déjà tourné les Alpes de Haute-Provence. On a déjà tourné... Ah, le reste, je vous dis pas, parce qu'on part en tournage la semaine prochaine.
Ah bon ?
Pour pas donner d'indication aux candidats.
Il va pleuvoir ?
Il va.
Parce que la météo est très essentielle.
Ouais, mais on arrive toujours, franchement, à trouver des éclaircies. Et puis on a, vous savez, on tourne les émissions sur 2 jours, mais on a quand même un 3e jour au cas où on ait de la pluie.
Merci beaucoup Cyril Ferraud. Donc je rappelle, la carte au trésor, c'est l'hélico de Ferraud. cerveau qui décolle. Je dis pas ça parce qu'il y a des gens qui vont vraiment penser
que je viens en hélico.
Bien évidemment.
Et que je suis complètement mégalo.
Ce soir est très très riche. Ce soir, 21h sur France 3 dans les Côtes d'Armor.
Je
merci
sens le
Cyril.
Saucisson.
Tiens, moi j'enchaîne alors. Après le rappel des titres, Culture Média continue. On va parler culture. On va recevoir le cinéaste Christophe Honoré et sa comédienne Camille Cotin pour le film Chambre 212 qui sort aujourd'hui. L'histoire de Maria, une histoire complètement dingue. Après son mariage, elle décide de quitter le domicile conjugal et une nuit, elle part s'installer dans un hôtel, la chambre 212, en face de chez elle. Mais non seulement elle voit son appartement, mais elle voit également son passé. Voilà. Et puis Hélène Manarino va nous dresser le portrait inattendu de Camille Cotin dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, la sélection cinéma de Mathieu Charrier, chambre 212 et hors concours évidemment, et la sélection livre de Nicolas Carreau. Merci encore Cyril
Ferraud. Merci Féro. Philippe.
On reste sur Europe 1.